Radio U, en direct de la 34e édition du Festival européen du film court de Brest. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière soirée dédiée à la 34e édition du Festival européen du film court. Radio U, pour une dernière soirée, a pris ses quartiers sous le puits de lumière du Quartz afin d'être plus proche de ce festival qui prendra fin dimanche. Au programme de ce soir, un gros plan sur la musique, élément majeur dans la création d'un film, puis l'interview de trois réalisateurs qui présenteront en détail le film pour lequel ils sont à l'affiche du festival.
Sans transition, on commence cette émission en s'intéressant à la musique au cinéma et tout particulièrement dans le film court. Nous n'allons pas retracer ici toute l'histoire du cinéma et de l'avènement de la musique dans le cinéma car c'est une vieille histoire d'amour. À noter que la première bande originale existante est bien antérieure à l'arrivée du cinéma parlant. On la doit au compositeur Gaston Paulin qui, dès 1892, a commencé à accompagner la projection de films au piano. Qu'est-ce que cela veut dire composer de la musique pour un film, et plus particulièrement pour un film court? Comment en arrive-t-on à exercer ce genre de métier? C'est ce que nous allons essayer de voir dans la prochaine demi-heure.
Laissez-moi vous présenter nos trois intervenants. Avec nous ce soir, Maï Ponton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie du jury de cette 34e édition du Festival du film court. Vous êtes le guitariste du groupe Dionysos, mais aussi compositeur de musique pour le film court, cette année notamment pour le film Gronde Marmaille. Mathieu Mégémon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également à nos côtés, vous êtes réalisateur du film court Diversion, et dont vous avez aussi composé la musique et qui est présenté dans le cadre de la catégorie Sueur froide. Et enfin, Wissam Ouéji, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes compositeur du film court Saison Calme, présenté dans la sélection Made in Braise. Pour commencer, est-ce que vous souvenez de votre premier contact, votre premier choc avec une musique de film ? Pour monter loin.
Moi, je pense que, franchement, non. Mais si je dois avoir deux chocs esthétiques vraiment qui ont eu lieu à l'enfance, c'est forcément Morricone et John Carpenter. Je pense que c'est les deux trucs où j'ai vraiment identifié le rôle de la musique de film et l'identité de la musique dans un film.
Morricone, pour moi, c'est peut-être un petit peu plus tard, mais peut-être un des premiers souvenirs vraiment enfant, c'est peut-être Les Dents de la Mer. Quelque chose qui m'a terrorisé et que j'entends encore quand je mets la tête sous l'eau, quand je viens de baigner.
Moi, je dirais Morricone aussi. Oui, parce que ça a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, et c'est une musique qui marque quand on est jeune ou moins jeune.
Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter vos faits d'armes en matière de musique au cinéma ? Qui veut commencer ?
Donc, je suis Wissam Ojej, compositeur. Donc, je compose pour de la fiction, du documentaire, des courts et des longs métrages. J'y suis venu. J'ai fait de la musique depuis l'âge de 7 ans. Et puis, petit à petit, je m'intéressais beaucoup par ailleurs au cinéma. Et à un moment, les deux se sont rejoints. J'ai commencé de manière assez libre quand j'étais plus jeune sur des films étudiants. Et j'ai fait mes armes là-dessus. On tâtonnait tous à l'époque, aussi bien en images qu'en musique. Et parallèlement, je jouais dans des groupes. J'ai une formation classique, 10 ans de conservatoire. C'est un peu tout ça. C'est un rapport à la musique un peu, très varié. Mais qui, à un moment, a fait sens pour moi sur la musique de film. C'est un langage qui me parle beaucoup. Et par ailleurs, ayant joué, ayant fait de la scène, etc., je me suis rendu compte que j'étais plus un rat de studio, si je puis dire, et plus dans la production musicale et dans la composition méticuleuse que dans la performance. Donc du coup, tout ça s'est rejoint avec un amour du cinéma.
Ben moi, j'ai une double casquette, c'est-à-dire que je suis musicien d'un côté, je joue dans des groupes depuis 20 ans, et je suis aussi scénariste-réalisateur. Donc du coup, quand j'ai dû faire mon premier court-métrage, j'étais pas parti pour faire la musique. J'avais demandé à un groupe que j'aimais beaucoup à l'époque, qui s'appelle Zombie Zombie, Et le problème, c'est que le film n'a pas eu beaucoup de budget et j'ai pas pu. Enfin voilà, c'était pas bien de les engager là-dessus, sachant qu'ils n'allaient pas pouvoir vraiment gagner d'argent avec leur travail. Donc du coup, c'est au moment où je suis tombé vraiment amoureux des, parce que je suis batteur à la base, et je suis tombé amoureux des synthétiseurs analo. Et du coup, c'était encore un temps où on pouvait s'en acheter pour pas très cher, des vieux d'il y a 40 ans. Et donc, j'ai acheté deux synthés analo pourris et j'ai fait la musique du film avec. Et ça m'a énormément plu. Donc, du coup, après, il y a eu pas mal d'années qui se sont passées. Moi, j'ai continué surtout à écrire et à développer mes projets, à faire de la musique en parallèle. Et ensuite, il y a des réalisateurs qui m'ont proposé de faire la musique de leur court il y a 2 ans. Un court qui a eu un beau parcours en festival. À la télé aussi, et quand il a fallu faire la musique pour ce nouveau court que j'ai écrit et réalisé, ça me semblait évident du coup que c'était à moi de le faire. Et là, pour les longs métrages que je développe aussi des maquettes en parallèle, parce que quand je dois faire lire mes scénarios, souvent je donne aussi une maquette musicale. Voilà, pour moi c'est évident que je ferai la musique de mes prochains films.
Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai créé le groupe quand j'avais 18 ans, Dionysus, en 93. On a commencé cette relation à l'image avec nos premiers clips, d'abord fait par nous-mêmes en Super 8, puis en travaillant avec des gens qui venaient du cinéma. On a rencontré en 15 ans beaucoup de gens qui venaient du cinéma. Ça nous a fait rencontrer. Ça nous a fait travailler sur des supports différents. Mathias, notre chanteur, lui, a fait une formation de cinéma et a commencé à réaliser court-métrage puis long-métrage sur lesquels on a fait nos armes. Et puis moi, je suis venu un peu naturellement à travers ce travail pour le groupe, tout seul à faire ça pour d'autres. Parce que maintenant, on sort des disques un petit peu moins régulièrement. Ça me laisse beaucoup de temps pour faire de la musique sur des pièces de théâtre, des spectacles de danse et aussi des court-métrages. Donc j'ai fait ma deuxième musique du court-métrage cette année, et là je présente le premier Grande Marmaille que j'ai fait l'an dernier.
Est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder la musique pour un film court ou pour un film long?
Je pense pas.
Je crois pas non plus.
Non. Dans l'absolu, il me semble qu'avant tout, composer une musique pour un film, c'est avoir un rôle narratif et trouver son rôle narratif au sein de ce film. Après, il y a une différence de format. C'est sûr que sur un long, il faut produire beaucoup plus de musique. Donc, mais dans l'absolu, sur l'impulsion de départ,
on est tous d'accord. On va dire techniquement, s'il y a moins de budget, tu es obligé de passer par des instruments plus virtuels que des vraies personnes qui jouent. C'est toute une espèce de... Il faut savoir où mettre le curseur, je dirais, sur du court-métrage, parce qu'on ne peut pas se permettre quelque chose qu'on peut se permettre sur du long-métrage. Mais en termes de création, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence.
Hein. Il me semble qu'avant tout, ce qui peut nous intéresser en tant que compositeur, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est que ce soit un film qui appelle de la musique, même si elle n'est pas omniprésente, elle peut être discrète, mais que ce soit un film où la musique a un sens et que ça ne vienne pas du tout de manière extérieure. Donc que ce soit un court ou un long métrage, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un plaisir aussi sur les longs métrages à pouvoir, je trouve, développer les choses dans la durée et pas s'en tenir à un format plus court. Voilà, c'est sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi.
Mathieu Mégémon, donc vous avez la double casquette dans votre film Diversion de réalisateur et de compositeur.
Triple casquette, parce que j'ai écrit le scénario aussi.
Ah bah, triple casquette. Je vais modifier ma question en conséquence. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon de réaliser le film, d'écrire le scénario ou de composer la musique? Comment ça s'est entremêlé?
Alors, comme je disais, maintenant quand j'écris, j'essaye de prendre un petit peu de temps pour... Déjà, j'écris toujours en musique. Et beaucoup de musique de film du coup, parce que le fait d'avoir des paroles, ça peut me déconcentrer. Donc j'écoute énormément de musique de film pendant que j'écris, et il m'arrive, à partir du moment où je commence à développer une certaine ambiance et une certaine structure, moi-même de composer des maquettes pour voir vers quelle tonalité le film est en train d'aller. Est-ce que ça... Je me rappelle plus exactement la question. Je suis désolé.
Comment ça s'entremêlait, le scénario, la composition?
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des pièces qui se font comme ça. Par exemple, pour celui-là, pour Diversion, j'avais composé des maquettes que j'ai filées ensuite au monteur. Qui a commencé à placer des maquettes sur son premier montage pour que je puisse me rendre compte si ce que j'avais composé, ça fonctionnait juste dans ma tête ou si effectivement ça fonctionnait avec l'image. Et effectivement, ça fonctionnait avec l'image. Donc à partir de là, j'avais composé un thème et puis il fallait que je fasse des variations autour de ce thème-là, en fait.
Mike Ponton, donc vous l'avez dit, vous aviez un parcours atypique parce que vous avez commencé à être guitariste du groupe Dionysos, qui a des chansons très, on va dire, cinématographiques, que ça soit dans l'emprunt justement un petit peu de Morricone dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui vous a décidé de franchir le pas et de composer de la musique pour des films?
C'est des rencontres, c'est plus des rencontres humaines où tu te dis j'ai envie d'accompagner cette histoire. Voilà, moi, j'écris pas les textes au sein de mon groupe, donc j'ai l'habitude d'accompagner les textes de notre chanteur, et je trouve que le rapport est à peu près le même, c'est-à-dire que ça soit en court-métrage, suivre une narration, l'accompagner, la mettre en musique. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, parce que j'ai l'impression que je fais ça depuis toujours, quoi.
D'accord. Et est-ce que vous pourriez parler justement de votre première expérience avec la sortie du film Jack et la mécanique du cœur? Parce que c'est vrai que il y a eu trois médiums différents. Il y a eu un livre, un album, et après le film d'animation.
Oui.
Comment
ça s'est passé, voilà, la genèse de tout ça? Mathias Malzieu, donc le chanteur de mon groupe, a sorti un livre. Et on a sorti quasiment au même moment, en 2007, le disque qui retraçait l'histoire de ce livre, où on avait invité énormément de gens pour incarner des personnages, et ce disque-là se voulait la BO d'un film qui n'existait pas. Voilà. Il y avait différents niveaux de lecture. Si tu connaissais l'histoire, tu pouvais retrouver la trame de l'histoire en écoutant le disque de A à Z, mais tu pouvais simplement prendre les chansons aussi dans un ordre différent. Elles existaient en tant que telles également, quoi. Et puis lors de la promo de ce disque-là, sur le plateau du Grand Journal, Luc Besson était invité, et ça s'est concrétisé par une production d'un film d'animation qui est sorti des années plus tard, parce que ça a eu, il y a eu pas mal de temps pour faire le film. Et donc ça s'est passé comme ça. Le film Jack et la mécanique du cœur est sorti en 2014. En ce qui me concerne, l'idée du disque, donc 6-7 ans avant, était de marier des sons d'horloge, des sons du réel avec de la musique, quelque chose de, voilà, de, sans avoir d'autres, sans avoir d'image dessus, d'autres contraintes, on va dire. Ce qui était relativement, je dirais, hyper excitant artistiquement, et puis relativement facile parce qu'il n'y avait pas d'autres contraintes. Et ensuite, j'ai dû le faire sur 1h40 de film, avec les images, avec une nécessité d'être musical, synchronisé. Et c'était une expérience passionnante, quoi.
Et vous, Wissam Ogej, donc vous êtes compositeur pour le film Saison Calme. Sans raconter trop l'histoire, l'eau est un élément omniprésent et rattaché à l'héroïne. Comment vous avez intégré cet élément dans la création de la bande-son de ce film?
En fait, c'est un film, ça a été passionnant de travailler sur ce film parce que dans le dialogue avec la réalisatrice, très vite, donc on a convenu du fait que c'était un film sensoriel principalement, et que la musique allait jouer un rôle sensoriel, quelque chose de très diffus, et en même temps qui a un grain et une présence. Et effectivement, étant sensoriel, la musique devait s'inscrire dans un autre environnement, qui est l'environnement sonore du film, et trouver sa place. Donc c'est un film, en fait, où il y a des scènes aquatiques sous l'eau, et puis il y a des scènes en extérieur. Mais c'est venu vraiment assez naturellement, parce que on voulait s'inscrire là-dedans. Après, comment trouver sa place par rapport au son d'eau, c'est ça la question.
Oui.
Ça, vraiment, je sais pas. C'est comme jouer avec les images, c'est-à-dire on compose avec les images, on peut composer aussi avec les autres sons du film et trouver sa place là-dedans. Bon, il y a plein de choses qui m'inspirent. Ça peut être la lumière, ça peut être un dialogue, énormément d'éléments. Donc l'eau n'est qu'un élément parmi d'autres. Mais oui, il y a toujours un rapport d'intégration et qui a été passionnant sur ce film.
Et dans les films, en général, on peut parfois entendre de la musique dans une radio, dans un supermarché, dans une boîte de nuit. Qui est-ce qui décide du choix de ces musiques?
Enfin, une différence entre, on va dire, la musique extra-diégétique, oui, comme on dit, et intra-diégétique.
C'est la narration, c'est l'auteur, je pense.
Mais souvent, c'est le réalisateur. Après, c'est au producteur de savoir s'il veut lâcher du fric pour se payer cette musique-là, parce que souvent, c'est assez cher, les droits musicaux.
Comment est-ce que du coup vous réussissez à jouer avec ça, justement, avec ces musiques qui des fois sont finalement des fois peut-être un petit peu plus commerciales ou qui vont faire référence à autre chose? Comment est-ce que vous réussissez à créer votre musique en accord avec ces chansons-là? Ou est-ce que
on les crée pas en accord? Ça existe comme ça dans la narration. Ça a un rôle, c'est un vrai rôle. Et si c'est une musique déjà existante, déjà connue et reconnue, c'est un vrai rôle. Donc on la laisse
telle quelle. C'est un rôle culturel, en fait. C'est une espèce de, ça ouvre quelque chose dans l'histoire. Imaginons. Si on entend The Mamas and the Papas, on est tout de suite dans les années 60, fin des années 60 et tout ça. Donc il y a un décor. En fait, c'est une musique décor presque, ce qui est très bien. J'ai l'impression que nous, on n'est ni en opposition, ni en accord, ni on vient raconter autre chose que ce qu'un référent culturel et historique peut raconter.
Tout à fait.
Moi, en tout cas, en tant que scénariste, je sais que je me prive de faire ce choix-là. C'est-à-dire que si à un moment je me dis ça serait bien d'utiliser cette musique-là, de suite je me censure. Parce que j'ai pas envie justement d'être frustré ensuite si j'arrive pas à obtenir les droits.
Voilà. Et quel est votre rapport maintenant à la musique au cinéma en tant que spectateur? Est-ce qu'il y a une déformation professionnelle qui fait que vous êtes complètement focalisé sur la musique? Ou vous réussissez à faire la part des choses et à déconnecter votre cerveau de compositeur?
Ça dépend du cinéma.
J'ai envie de dire qu'à partir du moment où on est quotidiennement dans quelque chose, on a quand même un rapport forcément d'observateur plus intéressé. Mais je sais pas, ouais. Même quand j'écoute de la musique, je peux essayer, moi, de temps en temps, de me détacher. Mais je reviens toujours... J'entends ce que le compositeur a fait, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué à un moment. C'est comme regarder une pancarte et essayer de pas lire ce qu'il y a écrit. Je vous défie de faire ça. Nécessairement, à partir du moment où on a une expertise, je pense que c'est dur de s'en détacher. Mais non, on se laisse porter par les histoires quand même, non?
Oui, ouais. Moi je vais justement parler en tant que scénariste. La musique me fait pas cet effet. Par contre, les histoires, de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de mal à rentrer dans un film. Si je commence à voir les rouages facilement, ça va. La musique me fait pas ça. Par contre, j'ai l'impression, mais alors, ça n'engage que moi, que depuis 10-15 ans, la frontière devient floue entre musique et sound design. Et pour le coup, voilà, moi je vous disais, les chocs, ça a été Morricone et Carpenter, c'est des musiques hyper affirmées dans les films, avec, qui n'ont pas peur de développer des thèmes. Ça, je pense que c'est un truc aussi qu'on a perdu, l'utilisation d'un thème musical.
Ah, super d'accord.
Voilà. Et du coup, aujourd'hui, la musique, c'est un papier peint. La plupart du temps, donc en gros, c'est un peu extrême ce que je dis, mais je trouve que c'est dommage. On pourrait l'utiliser beaucoup mieux, en fait, la musique dans les films.
Merci à tous. On va faire une petite pause musicale avant de continuer à discuter de musique de film. Et comme nous avons avec nous ce soir le guitariste de Dionysos, je vous propose d'écouter leur reprise de I Follow Rivers, parue sur leur album Vampire en pyjama en 2016. Vous êtes bien à l'écoute de Radio U pour cette dernière émission de la semaine en direct du festival du film court au Quartz.
Oh, I ask you, why not always? I follow you, darling. apron wide.
You're my river running high.
C'était I Follow Rivers de la chanteuse Lick Lee, reprise par le groupe Dionysos, une chanson parue sur leur album Vampire en Pyjama. Et le choix de cette chanson n'est pas anodin, alors que nous reprenons notre discussion autour de la musique dans les films, et tout particulièrement les films courts. En effet, la chanson I Follow Rivers, qui date de 2011, apparaît dans pas moins de 3 bandes-son de films différents, La vie d'Adèle, De rouille et d'os et Un moment d'égarement. Avec nous ce soir pour parler musique et films, Mike Ponton, guitariste du groupe Dionysos et membre du jury du 34e Festival européen du film court, Mathieu Mégémon, réalisateur et compositeur du court-métrage Diversion à l'affiche du festival, et Wissam Ogège, compositeur de la musique du court-métrage Saison Calme à l'affiche lui aussi de ce festival.
Alors messieurs, je vous propose maintenant de participer à un blind test musique et film. Nous allons écouter des extraits de bande originale ou de musique de film. À vous de me dire si vous reconnaissez le titre du morceau, l'auteur ou bien encore le film, où apparaît cette musique. Donc n'hésitez pas à partager ce que ces musiques et films vous inspirent. Et si jamais vous n'êtes pas inspiré pour cette sélection, nous avons de nombreuses questions dans notre besace concernant les morceaux qui vont passer. On va commencer tout de suite avec le premier extrait, extrait numéro 1. Arriver.
Un petit souci technique.
De fond, donc l'extrait numéro 2, Midnight Express.
C'est une version bizarre, ça. Je reconnais pas la version Marauder.
J'ai reconnu le thème, mais effectivement. Ouais. D'où l'importance des thèmes.
Exactement.
Donc, c'est une bande son qu'on reconnaît bien le style de Giorgio Moroder. Donc, elle est sortie en 1978. C'est la première bande son, enfin la bande originale entièrement composée avec des synthés et qui recevra l'Oscar de la meilleure musique de film.
Non, pas du tout. Il y a eu
non,
non.
Ah,
non.
Oh là là.
Bah non, il y a de, ne serait-ce que Walter Carlos pour Kubrick au début des années 70, Orange Mécanique. Je crois que c'est la première bande son entière. Et non. Et d'ailleurs, il y a eu Planète Interdite dans les années 50 avec un couple, le couple Baron. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Loulou Baron et son mari.
On a affaire à des experts, mais c'était bien sûr une erreur pédagogique. Est-ce que, alors parce que c'est, voilà, cette musique sonne très, enfin, on va dire années 80, même si elle a été composée à la fin des années 70. Est-ce qu'on compose de la même façon en 1978 qu'en 2019?
Ah bah non.
Non.
Bien sûr que non.
Parce qu'il y a une résurgence, on va dire, des sons un petit peu électroniques. Je pense à votre film où,
ouais,
où
oui, les nappes, oui, ça, de synthé, ça s'inspire, mais pour le coup, justement, c'est des synthés qui vont faire plus des textures, qui vont pas oser aller jusqu'au thème. Alors, ils vont utiliser la pulsation, ils vont utiliser les arpeggios, enfin les arpégiateurs, les trucs comme ça. Mais on a perdu effectivement la force du thème. Les musiques de films dans les années 70 étaient, à mon sens, beaucoup plus affirmées. Elles s'affirmaient beaucoup plus dans le film.
Et quel est l'impact des technologies pour composer votre musique? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous voudriez avoir des machines plus élaborées, dernier cri? Est-ce qu'un film peut aussi avoir vieilli uniquement par sa musique, par exemple?
Alors, il y a plusieurs questions. Les films peuvent vieillir par leur musique comme par leur image, ou pas. Les outils pour composer, à mon sens, ne restent que des outils. Ça ne remplacera pas des bonnes idées. Mais aujourd'hui, il y a peut-être plus de facilité à créer avec des outils adaptés pour des gens même qui ne viennent pas de la musique écrite ou ce genre de choses, avec les outils informatiques, comme la photo peut l'être avec le téléphone portable, par exemple. Voilà.
Oui, tout à fait. Ce sont juste des outils et aujourd'hui, ils sont plus accessibles, tout simplement. Mais bon, ça donne pas forcément de bonnes idées. Ça changera jamais, ça.
Vous parliez de la photo, justement. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'un bon photographe, il n'est pas bon grâce à son matériel, mais grâce à ses idées, grâce
à son cadrage. Ouais,
à son cadrage, c'est exactement la même chose, en fait, avec la musique.
Oui, je pense qu'il y a des points communs, hein, effectivement. Et c'est comme un bon filtre Instagram qui rappelle les années 70. Même si c'est super et que c'est une période qui me touche, les années 60, ça se rapproche, mais ça sera jamais l'égal de ce que c'était à l'époque où tu parlais des claviers analogues, de l'enregistrement en numérique se rapproche de plus en plus de ce que c'était l'analogique avant. C'est pas encore vraiment ça, quoi. Mais...
Et on passe à un autre extrait, l'extrait numéro 3 pour Étienne à la technique.
Sorti en 2014. Le compositeur est très connu vu que c'était un morceau de la bande-son d'Interstellar, donc par Hans Zimmer.
Je connais très mal Hans Zimmer, personnellement.
Moi, j'avais bien aimé la BO, mais là, c'était les prémices d'un morceau un peu plus long, peut-être.
C'était plus une musique d'ambiance que de musique à proprement parler.
Justement, on ne pouvait pas passer à côté d'un des plus gros compositeurs contemporains. C'est un bourreau du travail qui œuvre maintenant depuis 4 décennies et qui est aussi bien capable de composer la musique du Roi Lion que Interstellar. Et c'est sa 5e collaboration avec Christopher Nolan. Est-ce que pour vous, c'est important de travailler avec des gens qu'on connaît, avec qui on connaît travailler, ou les méthodes de travail, ou est-ce qu'à chaque fois, c'est aussi un petit challenge finalement de... Comment vous préférez travailler, en fait ?
En fait, je trouve que si on arrive à avoir avec un réalisateur une relation où on développe des choses sur différents projets, c'est vraiment une chance exceptionnelle parce que on évolue et on explore des choses ensemble. Après, ça n'arrive pas systématiquement. Mais oui, c'est sûr. Enfin, je vous serais d'accord, j'imagine.
Oui, complètement.
S'il y a moyen à chaque fois de prolonger et d'aller chercher de nouvelles choses sur un nouveau film, c'est intéressant.
Je trouve que ce qui n'est pas évident, c'est trouver la bonne couleur, la bonne palette de son, de se mettre à la place du réalisateur ou de la réalisatrice. Et si tu connais déjà la personne, si tu as la chance d'être bien en amont du tournage, par exemple, pour commencer déjà à être force de proposition, parce que quand tu es dans la musique, tu en parles d'une certaine façon, mais tout le monde ne parle pas de la même chose, on parle plus de ressenti, de choses comme ça. Mieux on connaît les gens avec lesquels on travaille, meilleures tes propositions sont, quoi.
Tatiana Vial commence sa dédicace à 18h30 à la boutique.
Merci.
Eh bien, nous sommes au courant.
Oui, non, mais ça me paraît fondamental, cette idée. Quand on peut, les conditions idéales, c'est de travailler en amont.
Ouais.
Et justement, sur Saison Calme, avec la réalisatrice Célia Abchir, on a beaucoup défriché, on a beaucoup cherché en amont des textures, des thèmes, pour qu'elle-même aussi
exactement
se positionne par rapport à ce qu'elle va raconter, pour ne pas faire doublon avec la musique.
Tu peux te projeter dans les dialogues, aussi, dans l'image. Un peu plus avec de la musique.
Et voilà. Et je trouve que c'est ça le luxe, c'est le mieux.
C'est vrai que c'est important.
Travailler en amont.
Ouais. Oui, de se mettre d'accord sur un type de son. Ça, c'est, c'est assez fondamental.
Et c'est vrai que pour Hans Zimmer, souvent, on reconnaît son style, comme beaucoup des grands compositeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez également, qu'on reconnaisse votre style, votre patte dans votre musique ?
Moi, c'est, je dirais qu'on doit être très polyvalent, mais aussi polyvalent qu'on puisse être. Moi, j'ai l'impression qu'à la fin, il y a quelque chose qui ressort de ma personnalité. C'est-à-dire, voilà, on a beau aller dans des directions et des styles différents, je pense que j'ai un phrasé, une manière de faire les choses qui finalement crée au bout du compte, mis bout à bout, quelque chose qui a une personnalité au service des films, dans le cadre à chaque fois d'une histoire différente. Mais voilà, j'ai un peu analysé ça dernièrement. On finit par se retrouver aussi à s'exprimer.
Moi, c'est une part en fait de mon travail. En fait, le film pour moi, voilà, je l'écris, je le réalise, je fais la musique, ça participe entièrement au truc. Donc, j'ai envie que la musique, finalement, elle représente autant mon identité que les thèmes que je développe dans le scénario et que le style de la mise en scène.
On va terminer avec un dernier extrait, l'extrait numéro 5.
Il y a une tierce scène.
Oui.
C'est Amélie Poulain, hein.
Exactement. Ouais. On ne pouvait pas terminer ce blind test sans y mettre un compositeur français, enfin brestois ou essentin de surcroît. Yann Tiersen est revenu sur cette expérience dans un article du Figaro en février 2019, où il explique que si c'était à refaire, il ne le referait pas, que le décalage entre sa musique et le film était trop fort. Donc voici ce qu'il raconte à ce sujet, et je le cite. Pour moi, la composition musicale n'a rien de très sérieux. C'est très organique et instinctif, et ça ne peut pas coller à une bande originale pour laquelle le réalisateur demande des choses comme « j'aimerais que la musique soit orange » et d'autres trucs stupides comme ça. Ça me rend fou. Qu'est-ce que vous en pensez des propos de Yann Tiersen ?
Bah, il peut les tenir, mais en même temps, sa musique, elle est intimement liée au film maintenant. Puis elle a eu un retentissement énorme quand. Enfin, je pense que c'est cette musique qui lui a donné du succès en plus à Tiersen. Moi, je trouve qu'elle fonctionnait très bien avec le film. Après, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie.
C'est difficile de parler des choses quand on n'est pas réellement dans la genèse de tout ça. Donc,
Est-ce que vous avez déjà eu des regrets ou des remords suite à la composition de vos musiques de film, après avoir vu le film ou avec le recul ?
Je dirais qu'il y a des projets où on arrive à exprimer plus de choses que d'autres, voilà, c'est plus ça. Mais l'idée n'est pas d'exprimer beaucoup de choses, mais que ça fasse sens et que ça apporte quelque chose. Donc effectivement, je pense qu'on a tous eu... enfin, en tout cas, des expériences où c'est moins épanouissant peut-être, ça dépend des réalisateurs.
Après, quand t'es vraiment au cœur du truc, tu vois un peu ce qui est perfectible, donc t'essayes de faire différemment à chaque fois, mais des regrets ou des remords carrément...
Ça va un peu loin.
Ouais, ça va un petit peu loin.
Alors, on n'a pas eu le temps, mais on voulait passer la chanson Libérée, délivrée, la Reine des Neiges, juste pour aborder la partie, on va dire, animation, dessin animé, film pour enfants. Est-ce que l'on pense au public, par exemple un public jeune, quand on compose pour un film ?
Non, on pense pas au public, on pense aux personnages, on pense aux images.
On pense à la narration.
Ouais. Ouais.
Eh ben, on pourrait continuer de parler de ce sujet encore longtemps, mais malheureusement, il est temps pour nous de nous arrêter.
C'était quoi le premier extrait ? Je suis désolé.
C'était Ainsi parlait Zarathoustra dans 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ah oui, là, on n'a pas du tout entendu.
Il y a eu un petit couac technique. Okay. Mais, voilà, on voulait aborder la musique classique, le fait de prendre des musiques déjà faites.
Ah, mais pour le coup, Kubrick, là, c'était un maître hein, pour ça. Ouais.
Merci Wissam Ogej d'être venu. Donc, vous êtes le compositeur du film Saison Calme, qui est présenté dans le cadre de la sélection Made in Braise. Mathieu Mégémont, votre film Diversion est présenté dans le cadre de la catégorie Sueur Froide. On peut le voir ce soir à 22h au Quartz. Mike Ponton, donc merci d'être venu. Vous faites partie du jury de cette 34e édition du Festival du film court. Et votre film Gronde Marmaille est présenté dans la catégorie Les compositeurs à l'honneur, à retrouver samedi à 17h30 au Quartz, aux côtés du film Diversion de Mathieu Mégémont et mon jukebox avec le compositeur Thomas Gallet. On revient tout de suite après une pause musicale. Vous êtes bien sur Radio U 101.1 en direct du Festival européen du film court jusqu'à 19h30. Nous accueillons maintenant Pauline Hamelin. Bonsoir.
Bonsoir.
Réalisatrice du film intitulé Show à l'affiche de ce Festival du film court. Show raconte l'histoire de Lynn, une femme qui, lors d'une soirée de départ en retraite, va faire la rencontre de Tony / Marlène, une drag queen en charge d'animer la soirée à coups de chorégraphie et de chansons en playback. Et je n'en dirai pas plus pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu. Sachez cependant que ce film réussit à aborder intelligemment et en un quart d'heure des questions aussi variées que les préjugés, le temps qui passe ou bien encore le rapport au corps et à l'acceptation de soi. Bonsoir Pauline Hamelin, d'où vous est venue l'idée et l'envie de réaliser ce film court ?
Alors l'idée, elle m'est venue quand j'avais ma grand-mère au téléphone et elle me racontait une soirée qu'elle avait passée avec des anciennes collègues. Et il s'avère qu'il y avait eu des transformistes ce soir-là, mais bon, elle n'est pas du tout dans cette. Je pensais qu'elle allait me dire qu'elle les trouvait plutôt perchés, etc. Et finalement, au contraire, elle avait beaucoup apprécié et elle m'avait dit. Elle était hyper enthousiaste et donc l'idée est vraiment venue là, à ce moment-là.
Avant de parler à proprement parler du film, est-ce que vous pourriez présenter votre parcours ?
Oui, j'ai 30 ans, je vis à Paris. Je suis réalisatrice, mais au départ, je travaillais comme script et monteuse. J'ai fait une partie de mes études en Belgique, et c'est là que j'ai étudié le cinéma au départ, donc comme script et monteuse. Et après, en revenant à Paris, j'ai fait un master de réalisation, et c'est là que j'ai rencontré mon producteur et que j'ai que je me suis vraiment décidée à être réalisatrice. Point.
Nous venons de sortir d'une table ronde sur le thème de la musique dans les films courts. La musique est très présente dans votre film avec des scènes de chorégraphie de Tony chantant en playback. Quel est dans votre film le rôle de la musique et comment vous avez abordé la musique dans votre film ?
Le rôle de la musique était vraiment primordial dès le départ, dès l'écriture du scénario. Notamment parce que je voulais apporter vraiment un côté comédie musicale en fait dès le départ. Le film s'appelle Show, il y a quand même du spectacle, il y a du playback fait par les drag queens, donc c'était hyper important. Et en fait j'ai travaillé du coup avec un compositeur et il y a aussi de la musique préexistante et la musique additionnelle en l'occurrence qui arrive vraiment à la fin. Justement au moment où le film bascule dans un côté un peu comédie musicale, là c'est du coup j'ai travaillé avec le compositeur et on a écrit la musique ensemble, enfin les paroles, et lui il a composé, et après c'est moi qui chante du coup, mais c'est les drag queens qui font du playback, donc ils font du playback sur ma voix, ce que je trouvais plutôt sympa.
Lynn, l'héroïne de ce film, c'est un personnage qui va devoir lutter contre ses propres préjugés suite à sa rencontre avec Tony. Pourquoi avoir choisi une personne âgée pour ce rôle, mis à part le coup de fil de votre grand-mère ?
Oui, bien sûr, comme vous le disiez au départ, il y a une grande dimension dans le film. Je parle beaucoup du temps qui passe, avoir ce personnage qui se voit vieillir, qui a sans doute peur de la mort, qui voit son corps changer, c'était quelque chose qui me tenait qui me tenait à corps et à cœur. ça me tenait à cœur. Et donc, et puis en plus, c'était la rencontre quand même entre deux univers très différents. Alors certes, ça aurait pu être une jeune femme de mon âge qui n'est pas du tout ouverte ou qui ne connaît pas ce milieu, mais je trouvais ça plus intéressant de le confronter à vraiment une personne de cet âge-là, quoi.
Parce que moi, je me suis posé la question en voyant le film, est-ce que ce n'était pas un message pour dire que la LGBT+ phobie pouvait avoir plusieurs visages et qu'on ne s'attendait pas forcément à que ce soit, on va dire, une petite vieille qui ait peur de drag queen ? C'est pas ce que vous avez voulu dire à travers ce film.
Comment, que les personnes âgées ont peur.
Sont plus tolérantes par rapport à ça.
Alors, il y avait peut-être un peu de ça dans le sens où, où c'est vrai qu'il y a, il y a souvent... En fait, c'est-à-dire qu'il y a souvent des shows drag queen pour des gens à la retraite, etc. Mais je pense que souvent, quand ils font ces shows-là, donc dans des maisons de retraite ou dans des, voilà, dans des bars, des restos, c'est vraiment là purement divertissant. Et alors, les personnes qui reçoivent ça, elles n'ont pas forcément toutes les notions militantes par rapport à tout ça. Et elle voit ça plutôt d'un œil, en effet, hyper positif, amusant. Après, j'ai pas voulu dire que les personnes âgées, elles étaient plus tolérantes que les jeunes. Non, j'ai pas voulu dire ça. Mais je me suis dit, oui. En fait, c'est amusant comme un mouvement qui certes est hyper divertissant dans les paillettes, etc., mais qui a quand même beaucoup beaucoup d'engagement au fond. Peut justement plaire et ouvrir l'esprit à des personnes qui n'ont pas du tout ces notions-là, parce que voilà, on n'en parlait pas avant, quoi. Voilà.
Une des scènes centrales du film est un cours donné par Tony à Lynn sur différentes façons de dire le mot merde. Est-ce que le phénomène de libération et d'acceptation de soi passe aussi par le langage ?
Oui, je pense. Je pense que ça passe, pour le coup. Par le corps, comme on peut le voir dans le film, et aussi par le langage, et par en fait plein de choses, et donc le langage aussi. Je pense le masque social qu'on se met, on le met autant sur le corps que la manière de parler, etc. Alors ouais, ça doit être un sujet à traiter vraiment. Enfin, ça doit être passionnant d'ailleurs de parler de ça, de la libération par la parole, etc. Et oui, donc je pense que carrément.
Le film aborde aussi le rapport au corps, que ce soit à travers le personnage de Tony ou de Lynn. Tony est une personne beaucoup plus libérée à ce sujet, alors que Lynn va apprendre à se lâcher. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet, sur la construction et l'évolution de ces deux personnages ?
Oui, alors Tony, donc dans le film, on ne le voit que dans son personnage de drag queen. En l'occurrence, c'est un moment justement pour lui où il est dans une liberté totale et où il a une liberté dans son corps absolue, bien qu'il soit forcément transformé avec son maquillage et sa tenue, mais il est vraiment dans une grande liberté. C'est lui qui a créé son personnage. Lynn, elle est beaucoup plus empêchée, comme je le disais tout à l'heure, elle a du mal à se voir vieillir, son corps qui change, elle est empêchée par le regard des gens autour, donc il y a tout ça. Et en fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans le milieu des drag queens, il y a vraiment une liberté dingue, en fait. Mais c'est paradoxal, parce qu'à la fois ils sont cachés derrière énormément de maquillage et une tenue qui n'est pas celle qu'ils vont porter quand ils sont hors du show, parce que le drag queen, c'est faire du spectacle, quoi, faire du show. Voilà.
Est-ce que vous pensez que justement c'est en rencontrant, on va dire, des personnes LGBT plus, c'est à travers les rencontres comme ça qu'on peut casser les préjugés existants et faire en sorte qu'il y ait moins d'attaques envers ces personnes ?
Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, c'est toujours quand on rencontre des personnes qui sont dans un milieu qui peut nous effrayer ou quoi, forcément, de les rencontrer, ça brise la glace. Et notamment, je pense à quelque chose, quand on rencontre une drag queen, je pense qu'il y a toujours un moment, mais qu'on soit hyper open ou quoi, mais il y a toujours un moment un peu de... On est impressionné, en fait. On est impressionné parce que tout d'un coup, on a une personne qui a des talons comme ça et qui est vraiment très, 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 très grande, qui a une très grande confiance, en tout cas, et comme je le disais, une grande liberté. Et du coup, ce côté, on est un peu impressionné, on se demande, etc., ça peut s'envoler forcément quand on rencontre la personne. Et ça, c'est pour tout. Tout ce qui nous fait peur, en fait, c'est ce qu'on ne connaît pas forcément. Donc,
Est-ce que vous pouvez parler de votre prochain projet? Alors, j'ai cru voir que c'était un scénario que vous aviez écrit et qui a un nom assez, assez drôle.
Oui. Alors, le titre du prochain court-métrage que je prépare, c'est L'orgasme de Meg Ryan, qui est une référence au film Quand Harry rencontre Sally, où voilà la fameuse scène de Meg Ryan où elle joue un orgasme. Et en l'occurrence, c'est un court-métrage qui raconte l'histoire d'une jeune comédienne. Enfin, oui, elle est jeune, mais elle se sent vieille déjà, elle a 30 ans. Et elle essaye d'être comédienne, elle prend des cours de théâtre privé à Paris, elle a beaucoup de peine, et notamment ce jour-là, en fait, elle répète la scène, cette fameuse scène, et donc elle essaye de jouer cet orgasme devant tous les élèves, devant la prof, etc. Et il s'avère que ce jour-là également, il y a une masterclass d'une ancienne élève et qui est aujourd'hui une grande vedette, et qui était une amie d'enfance de cette aspirante actrice qui galère. Et en fait, c'est un film... donc, clairement, le personnage principal, pendant tout le film, elle va essayer de faire un orgasme qui fonctionne. Et au-delà de ça, du coup, c'est la confrontation entre celle qui a réussi et celle qui n'a pas réussi. Mais voilà, ça questionne la réussite et qui a réussi, qui n'a pas réussi. Il y a encore quand même beaucoup une histoire de lâcher prise, puisque bon, ben voilà, quand on a un orgasme, on est dans le lâcher prise. Et même si là, elle aura pas un vrai orgasme, elle doit le jouer, donc c'est pas évident, quoi. Voilà.
Et vous êtes à quel niveau de ce nouveau projet ?
Il est écrit. J'ai pas encore entamé les démarches de financement, etc., avec mon producteur. Donc il en est encore au début il en est encore au début, quoi, parce que je vais pas le tourner demain, quoi, malheureusement. J'aimerais bien.
Votre film concourt dans la compétition française de ce festival. Est-ce que c'est important pour vous de vous retrouver dans ce type de festival, que ce soit la rencontre avec le public ou le jury, les spécialistes du domaine du film?
Ah bah oui, c'est vraiment. Moi, je suis au firmament, là. Je suis très heureuse. Non, mais oui, c'est génial, parce que, déjà, les courts-métrages, c'est surtout dans les festivals qu'ils peuvent vivre. À la télévision, mais voilà, à la télévision, on n'est pas avec tous les spectateurs, on n'a pas des retours aussi directs que dans une salle de cinéma. En plus, c'est quand même au cinéma... vraiment, je trouve que, pour le coup, il donne vraiment plus quand on le voit en grand écran qu'en petit écran. Et c'est vrai qu'en plus, là, le Festival de Brest, je ne le connaissais que de nom, mais alors j'entendais que de très belles choses, une très bonne réputation, comme quoi être sélectionné ici, ça veut dire qu'on a un immense talent. Je plaisante. Non, mais bon, voilà, apparemment, c'est hyper, c'est super cool. Et puis voilà, trop bien de pouvoir présenter le film. J'ai vraiment super hâte d'avoir des retours, d'entendre les gens me dire ce qu'ils en pensent, voir si ça touche certaines personnes, s'il y en a d'autres qui se disent ouais, ok, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, quoi. Enfin, ça m'intéresse forcément, pour même pour mes prochains films et tout. Et puis un festival, c'est toujours tellement tellement chouette. On est dans une bulle pendant quelques jours, on voit plein de films, on rencontre des gens qui sont tous animés par la même passion. Moi, j'ai jamais fait d'interview radio, j'en fais une là pour la première fois, c'est hyper chouette, quoi.
Et votre coup de cœur pour le moment de ce festival?
Alors, j'ai l'impression d'avoir vu déjà 40 films, donc je réfléchis un peu, mais je sais que j'ai beaucoup aimé Gaïa, qui est un film belge. Là, je viens de voir un film de Marie Le Floch, avec qui on était à l'école ensemble, d'ailleurs à l'IAD, Je serai parmi les amandiers, que j'ai trouvé très beau. J'ai vu ce matin The Good Shepherd, un film libanais, je crois, ou estonien, qui était très beau aussi, j'ai beaucoup aimé. Je dirais que c'est ça, mes trois favoris pour le moment.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Pauline Hamelin. On peut retrouver votre film dans la section Compétition française 3 du festival. Il est toujours possible de le voir samedi à 18h au Grand Théâtre du Quartz. Tout de suite, une pause musicale avant de reprendre d'autres interviews de réalisateurs pour cette 34e édition du Festival européen du film court.
Last night, you whispered some words to me. All I wanted to hear, I've heard.
Jour a pris ses quartiers au Quartz pour le Festival européen du film court. Nos codes de carte bleue, nos numéros de téléphone, les codes postaux, nos adresses, nos numéros de compte bancaire, nos mots de passe, le laissez-passer à 38, on est entouré de chiffres, de numéros qui font barrière, qui nous protègent. Enfin ça, c'est ce qu'on pourrait penser. Parce que dans le film Mort au code, ces numéros sont une barrière, oui, mais une barrière à l'aide qui pourrait nous être apportée, à l'aide qui nous est vitale. Pour en échanger ce soir avec nous aujourd'hui, le réalisateur Léopold Legrand, bonsoir.
Bonsoir.
Pour votre film, vous vous êtes inspiré du livre de Patrick Peloux, Toujours là, toujours prêt. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, en fait, Patrick Peloux, donc, qui était médecin urgentiste, enfin qui est toujours médecin urgentiste et qui publiait des chroniques dans Charlie Hebdo, a décidé de faire un recueil de ses chroniques qu'il a appelé Toujours là, toujours prêt. Et c'est là que j'ai découvert la chronique Mort au code et j'ai voulu en faire un film.
Et ce film, est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques mots ?
Ouais, c'est l'histoire d'un groupe d'urgentistes, une équipe du SAMU qui essaye d'accéder à un appartement dans lequel une victime est en train de faire un infarctus et il y a des codes, c'est dans une résidence ultra sécurisée et du coup ils butent sur les codes et ils mettent un temps fou à accéder à la victime.
Comment est-ce que vous avez préparé le scénario ? Est-ce que vous avez effectué des recherches ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes ?
Oui, il y a eu d'abord un travail d'adaptation un peu classique, et puis ensuite ça a été j'ai travaillé avec le SAMU du 78, donc en banlieue parisienne, et on est allé faire différentes interventions parce que en fait j'avais très envie de faire un film qui soit réaliste et de m'imprégner de la dynamique entre ces différents membres des équipes, et donc je suis allé sur c'est comme ça que j'ai préparé.
Est-ce que vous aviez aussi quelqu'un sur le tournage pour vraiment voir comment ça fonctionnait ?
Alors oui, parce qu'en fait, je m'étais beaucoup inspiré de ce que j'avais vu des ambiances, de la dynamique, mais j'étais pas très précis sur les gestes. Et du coup, j'ai demandé si un pompier pouvait être là, notamment sur tout ce qui était du vocabulaire et puis des gestes qu'on... Parce que c'est très précis, c'est très... Comment dire, c'est très
très technique.
C'est très technique. Et du coup, il y avait un pompier qui supervisait ça, qui me donnait des conseils, qui donnait des conseils aux acteurs, mais rien que dans la manière de bouger. Enfin, voilà. Donc ça, c'était d'une grande aide, ouais.
Et en tant que spectateur, on voit la situation en temps réel. On attend en même temps que les urgentistes qu'ils puissent faire leur travail et déjouer les codes. Finalement, qu'est-ce que vous voulez faire passer à travers cette situation d'attente?
En fait, moi, ce que je voulais faire ressortir, c'était l'absurdité. En même temps, il n'y a aucun jugement moral sur le fait qu'il y ait des codes aux portes. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y avait quelque chose on a beau mettre des codes à toutes les portes, on n'empêchera jamais la mort de rentrer. Donc je trouvais qu'il y avait une absurdité à les codes qui sont censés nous protéger d'un extérieur, en fait, nous tue. Et donc c'était ça. Après, la façon dont je l'ai fait, c'est, j'ai décidé de n'être que du côté de l'équipe d'urgentistes parce que je voulais que le spectateur soit en empathie avec eux et qu'il soit bloqué avec eux, donc dans cette tension, dans cette attente, dans cette frustration que les portes ne s'ouvrent pas. Et voilà.
Et est-ce qu'après avoir fait toutes ces recherches, avoir tourné ce film, votre avis sur le travail des urgentistes a changé ?
J'ai une petite sœur qui est pompier. Du coup, je la vois un peu évoluer. Elle m'a emmené un peu faire des gardes avec la Croix-Rouge aussi. Donc, j'ai toujours eu un rapport d'admiration. De gens qui sont là, qui donnent leur vie pour les autres. Donc ça n'a pas fondamentalement changé, mais en tout cas j'ai essayé dans le film, et notamment avec la fin du film où on retourne à quelque chose de beaucoup plus quotidien, de montrer voilà, quelle était la vie de ces gens-là, comment leur humour, humour noir, le cynisme était un moyen de se mettre à distance de ce qu'ils vivaient et puis de montrer quelque part leur bravoure, même si c'est pas des héros, mais c'est des héros du quotidien.
Et mort au con, c'est une expression qu'on emploie dans différentes situations, par exemple dans le milieu militaire, pour désigner son ennemi. Est-ce que vous vous êtes inspiré de cette expression-là ?
Non, tout le crédit va à Patrick Peloux, qui j'ai repris le titre. J'ai un peu hésité parce que j'aimais pas le côté slogan. J'avais un peu peur du côté moralisateur, justement, où on brandit une bannière, on dit mort aux côtes. Mais bon, en même temps, il était percutant. C'était la nouvelle était s'appelait comme ça, donc j'ai conservé ça. Mais il n'y a aucun rapport avec mort aux cons. Ça sonne un peu pareil.
C'est vrai qu'effectivement, quand on voit le film, on se demande si vous êtes un petit peu en guerre avec les codes, finalement.
Bah, comme tout le monde. Enfin, je peux avoir une vraie frustration quand j'ai envie de changer de musique et sur le portable d'un pote et que j'ai pas le code. C'est fou, quoi. Aujourd'hui, il y a des mots de passe pour tout. Donc, je sais pas si vous avez la même chose, mais des carnets où je note. Voilà. Et je me dis pas en guerre. En vrai, le message m'intéresse peu, mais donc voilà, j'aime bien l'idée d'y réfléchir, en tout cas, de se dire est-ce que...
Est-ce que c'était important, on a parlé de la fin du film, on va pas trop spoiler, mais on a parlé effectivement d'humour noir, est-ce que c'était important pour vous de terminer ce film par finalement une lueur d'espoir et d'humour ?
Ouais, en tout cas j'adorais l'idée qu'ils repartent en intervention après ce qu'on venait de traverser avec eux, parce que c'est ce qui m'a touché en fait dans mes repérages, c'était de voir après n'importe quelle intervention, ils se réunissent, ils font un débrief parce qu'il faut en parler, et ensuite ils passent à autre chose. Et ça, je trouvais ça assez touchant, comment bon, faut oublier ce qu'on vient de voir, cette mort, et puis faut aller sauver quelqu'un d'autre, porter secours à quelqu'un d'autre. Et ce que je raconte, ce que je raconte souvent quand je parle du film, c'est j'aime la distance qu'ils mettent. En fait, ils se protègent par l'humour. Souvent un humour bien noir, ça parle beaucoup de cul, c'est gras parfois, mais c'est une manière d'être en distance avec des situations beaucoup plus concrètes et beaucoup plus complexes. Et donc ça, j'ai essayé dans le film de qu'on le sente, et notamment dans la dernière, c'est que tout le reste du film, on est dans l'urgence de savoir si oui ou non ils vont réussir à accéder à la victime.
Et est-ce que vous avez eu des retours de personnes que votre film a fait réfléchir ?
Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça nous parle à tous, parce qu'on est tous dans la même galère avec nos codes. Donc, je pense que quand on peut repenser au film, quand on arrive chez quelqu'un et qu'on connaît pas le code, après, j'espère qu'il ne l'est pas trop, mais ça reste des histoires anecdotiques, quand même.
Et alors, dernière petite question, est-ce que vous avez un code pour rentrer chez vous ?
Non. Non, j'ai une clé.
Léopold Legrand, merci d'être venu en plateau.
Merci beaucoup.
Je rappelle que votre film est diffusé ce soir dans la catégorie Compétition française 2 à 21h au cinéma Les Studios. Quant à nous, on se retrouve après le reportage d'Eva.
J'ai beaucoup aimé la bande-son, j'ai trouvé très planante et très évolutive. Et du coup, ça crée comme une atmosphère un peu planante, mais en même temps, il y avait un côté pesant, accentué par les pas des danseuses. Et les plans sont magnifiques avec le drone, je sais pas où c'est tourné, je pense que c'est en Russie ou en Ukraine, un truc comme ça. Et ouais, elle est très réussie.
Qu'est-ce que t'as pensé du film aux abords de la ville ?
J'étais pas vraiment à l'aise avec. Enfin, en plus, la musique est vachement inquiétante, genre stressante. Enfin, ouais, globalement, pendant tout le film, j'étais super stressée. J'avais peur de voir la chute. Et ouais, à un moment, on voit la même femme qui discute en pleine forêt avec un gars. Et ce gars-là lui dit comme ça, genre « Oh, t'as peur des frelons ?» Au début, je me suis dit « Mais putain, ça sent pas bon, quoi !» Et puis après, justement, grâce à la musique, j'avais un peu moins peur pour elle, quoi. J'étais vachement plus rassurée, je dirais. Donc ouais, je pense que si la réalisatrice, par contre, elle avait choisi de mettre la musique du début à ce moment-là, je me serais carrément agrippée à mon fauteuil. Ouais, je trouve que la musique joue vraiment un rôle important. Genre, on se sent vraiment en immersion.
écoutez toujours Radio U en direct du Festival européen du film court de Brest. Merci à Eva pour son reportage. Retrouvez-le en podcast sur notre site internet radio-u.org. La Troisième République française a été sûrement la plus chaotique politiquement et la plus cocasse depuis la Révolution française. Ce soir, nous invitons un réalisateur qui a fait le choix de retourner pile 100 ans en arrière, en 1920, en plein cœur de cette Troisième République. Jean-Marc Peyrefitte, bonjour.
Bonjour.
Tu es le réalisateur du film Le Président et le Garde-Barrière, un court-métrage présenté dans la compétition Made in Braise 1. Ton film relate l'histoire un peu ubuesque d'un président de la République française fraîchement élu. Qu'est-ce qui lui arrive à ce président dans ton film ?
Alors, dans mon film, il lui arrive pour une raison un tout petit peu inconnue. Il est tombé du train et il a été recueilli par un garde-barrière qui ne l'a pas reconnu, qui même, pire, ne l'a pas reconnu, ne croit pas qu'il est président de la République. Et du coup, on est parti, c'est une anecdote complètement véridique, et qui s'est passée donc le 24 mai 1920. On sait, selon les journaux, qu'il est tombé dans la nuit du samedi au dimanche, et qu'il n'est rentré à Paris que le mercredi matin. Et donc, pendant ces 4 jours, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, puisque le garde-barrière n'a rien voulu dire. Le président de la République, un peu couvert de ridicule à l'époque, n'a rien dit non plus de ce qui s'était exactement passé. Du coup, on s'est permis d'inventer une histoire.
Et pourquoi choisir un film qui se déroule il y a un siècle et pourquoi choisir précisément cette histoire qui est d'ailleurs assez méconnue
parce que j'aime beaucoup Paul Deschanel. Paul Deschanel, c'est ce président-là, c'est un président qui a tout loupé. Alors je sais pas si c'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais en tout cas je sais que c'est un type qui avait des idées incroyables. Il voulait le vote des femmes, l'abolition de la peine de mort, la fin des colonies. Il voulait pas qu'on applique le traité de Versailles pour pas que ça reparte 20 ans après. Il avait prévu les guerres du pétrole, il avait prévu à peu près tout le 20e siècle, mais c'était un type qui n'était pas formé pour le pouvoir, qui n'a pas réussi à gouverner, et qui n'a fait que le plus petit septennat qui a jamais existé. Il a fait 7 mois, de janvier à septembre 1920. Et du coup, je me disais, tiens, c'est un personnage intéressant parce qu'on l'aurait écouté, on aurait été les premiers dans plein de domaines. Et puis, juste parce qu'il n'était pas armé, parce qu'il s'est fait détruire aussi par Clémenceau, qu'il venait de battre à l'élection présidentielle, qui était sans doute plus un animal politique qui maîtrisait les arcanes du pouvoir. Et du coup, c'est peut-être ça qui m'a rendu attachant, ce personnage. Je me suis dit, c'est un personnage qui a des idées et qui est pas forcément très, très taillé pour le rôle.
Et vous savez s'il y a déjà eu un film qui relatait cette histoire de Paul Deschanel qui est tombé du train?
Alors, il y a eu un téléfilm dans les années 80 avec le père Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel, c'est un téléfilm qui relatait cet épisode-là, mais qui n'était pas du tout traité d'un point de vue comédie comme nous on le traite dans le court-métrage, quoi.
Et comment on écrit un film historique, surtout qu'il y a de nombreuses contraintes, notamment liées aux sources historiques?
On a eu, pour rentrer un petit peu dans la petite cuisine par rapport à ce court-métrage, on a eu recours à des vraies images d'archives, plus des fausses images d'archives que nous on a tournées avec nos acteurs. Ça nous a permis déjà d'avoir Clémenceau comme acteur, premier acteur du film, le vrai, et du coup d'intégrer juste à côté de lui notre acteur qui jouait Deschanel. Et ça nous a permis du coup de nous acheter une sorte de véracité par rapport à une véracité historique, et qui après nous a permis de raconter une histoire complètement assez loin, une espèce de parenthèse que se permettait ce président-là.
Et où est-ce que vous avez trouvé les sources exactes de qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, pour après refaire dans le film?
Alors, il y a assez peu d'éléments factuels qui existent sur cet épisode-là. On sait, il y a déjà dans les 3 biographies qui existent de Paul Deschanel, il y a 3 versions différentes de l'accident. Soit il a voulu se suicider, soit il est tombé par mégarde parce qu'il avait fait baisser la vitre des wagons pour pouvoir mieux saluer les gens, et du coup il a été surpris par à quel point elle descendait bas, et du coup il a basculé. Je sais plus quelle était la troisième version. Enfin bon, bref, il y a plusieurs versions qui existent du même accident. Après, une chose est sûre, il s'est retrouvé sur le ballast, il a été recueilli par ce garde-barrière qu'il a pas reconnu, et après on ne sait rien de ce qui s'est passé. Aucun des deux n'a raconté ce qui s'était passé. On sait, donc moi j'ai retrouvé, ça s'est pas, historiquement ça s'est passé à Montargis, à une centaine de kilomètres au sud de Paris. Et on sait que sur le monument aux morts de la guerre de 14-18, il y a le nom du fils du garde-barrière. Donc on a un peu inventé une histoire par rapport à ça, parce que ça nous tenait à cœur d'essayer de faire de la comédie historique, mais en essayant de parler des vraies choses, avec une famille qui vit dans le deuil de son fils, et qui n'est pas uniquement qu'une histoire de comédie, quoi.
Et d'ailleurs, dans le film, la femme du garde-barrière en parlant du président, il a tout de même les pieds propres. Est-ce que cette réplique a vraiment été dite en 1920?
Il paraît que oui. Il paraît que oui, que Madame Radeau a dit ça. Oui, parce que devant les doutes de son mari, elle a quand même dit oui, mais enfin, c'est quand même bizarre, elle a les pieds propres. Est-ce que ça serait pas quelqu'un?
Et d'ailleurs, pour vous, en disant ça, qu'est-ce qu'elle sous-entend?
Je sais pas, moi, ce que je sais, c'est que on a voulu travailler sur le personnage de Monsieur Radeau sur un espèce de complexe de classe, c'est-à-dire que c'est un type qui n'arrive pas à imaginer qu'il puisse avoir le président de la République face à lui. Il a tellement connu de malheur dans sa vie, il a perdu son fils, il est rentré dans une espèce de culpabilité du survivant, enfin avec plein de thématiques comme ça. Il ne peut pas imaginer qu'il est le président face à lui. Donc il cherche tous les biais possibles pour pouvoir se justifier ce qui devient du coup un pauvre type qui se prend pour le président de la République. Par contre, Madame Radeau, on voulait faire un personnage un peu plus les pieds sur terre, quelqu'un qui réagit plus par rapport au malheur et qui du coup note ces petits détails et essaye d'apporter ces petits détails à son mari pour le mettre en doute.
Et il y a un point que vous évoquez assez drôle et assez intéressant dans votre film. Paul Deschanel, le président de la République, il est inconnu de tout le monde dans le film. Personne ne sait qu'il est président. Et cela, vous le montrez à plusieurs reprises. C'est quelque chose que tu voulais montrer avec importance dans le film?
C'est-à-dire que d'un point de vue de ressort comique, c'était quelque chose qui nous permettait de renouveler le côté, parce que forcément, si tout le monde avait su qu'il était président de la République, le court-métrage n'avait pas lieu et l'histoire n'aurait pas eu lieu telle qu'elle a eu lieu. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant parce que en 1920, il faut se replacer. En janvier 1920, Clémenceau vient de gagner presque à lui tout seul la Première Guerre mondiale en tant que président du Conseil. Il n'envisage pas une seule seconde de ne pas être élu président de la République, puisque ça, c'est la moindre des choses que lui doivent les députés et les sénateurs. Et à ce moment-là, les députés et les sénateurs ont décidé, en gros, de lui faire, enfin, je schématise un peu, mais de lui faire une blague. Il était devenu tellement insupportable, Clémenceau, avec tous les députés et les sénateurs. Et du coup, ils ont élu, entre guillemets, le plus inoffensif d'entre eux, Paul Deschanel, un type qui faisait des beaux discours, qui avait des jolies idées, qui était de l'Académie française, et qui, à l'élection d'avant, en 1913, avait eu une seule voix, quoi, sur 880. Donc, là, du coup, il se retrouve avec 750 voix d'un coup et il est élu président de la République à la surprise générale, mais comme beaucoup de gens à l'époque mélangeaient président du Conseil, président de la République, en tout cas dans la France profonde dès qu'on quittait Paris, on s'est imaginé qu'on était, et ce qui arrivait d'une manière véridique, que beaucoup de gens pensaient que c'était encore Clémenceau qui était président de la République.
Vous vouliez interroger le spectateur sur notre relation au temps maintenant, où le temps est beaucoup plus court qu'avant?
Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que c'est rigolo, parce que du coup, on se retrouve à avoir des images d'archives de l'époque tournées en pellicule, alors qui pourraient correspondre à ce que font les chaînes de télé en direct maintenant, sauf que à l'époque, ça ressort avec une belle image en pellicule et des personnages qui avancent un tout petit peu en accéléré. On a plus l'impression d'un vieux comique de Buster Keaton ou de Laurel et Hardy, et alors que c'était ça la réalité pour les gens. Du coup, on aime bien jouer sur ces décalages, sur tout ce qui a évolué depuis 100 ans, quoi.
Et le président Deschanel, dans votre film, est physiquement et mentalement assez perdu. Il était un peu le président sans le vouloir, en fait.
Tout à fait, ouais. Il est... Il n'avait pas vraiment voulu être président. Lui, ce qu'il voulait, c'était avoir des idées, écrire des beaux discours. Il était président de la Chambre, il animait les débats, il relançait les débats, et ça se passait très très bien comme ça. Il ne voulait pas être complètement président. Le truc qu'on a trouvé, justement, après, ça fait partie des recherches qu'on fait quand on écrit un film, c'est que, comme il s'est senti un tout petit peu fragile au moment de l'élection, nerveusement, un médecin un peu mal intentionné lui a prescrit le Véronal, qui était la première molécule de barbiturique qui venait des États-Unis, qui était uniquement soluble dans l'alcool, qui est un médicament que maintenant on donne aux chevaux quand ils se sont cassés une patte, et qui était un espèce de truc, et qui lui retournait complètement la tête. Et du coup, de sa petite fragilité nerveuse qu'il avait réellement, il a rajouté là-dessus un médicament qui avait des effets secondaires assez énormes, puisqu'il y avait ils appelaient ça des réveils confuso-oniriques, où il savait plus où il était, il assistait au Conseil des ministres, mais il s'en souvenait plus, il était obligé de relire le rapport, et donc il a jamais remis en cause le médicament, et il est rentré dans cette espèce de doute, et il a cru qu'il n'était pas à la hauteur, et ce qui a précipité sa chute 7 mois plus tard.
Et Paul Deschanel, dans le film, on le voit fuir ses responsabilités politiques. Il essaye de se ressourcer dans la simplicité, la tranquillité de la campagne. Le moment s'est vraiment passé en 1920, ou c'est vous qui l'avez imaginé dans ce trouble un peu historique ?
Ben, dans ce trouble un peu historique et devant le manque d'éléments sur les motivations qui ont précipité cet événement, on en a un peu profité. Moi, je pense personnellement que Paul Deschanel en avait marre de la vie politique, de tout le monde qui lui tirait dans les pattes. Il ne maîtrisait pas les arcanes du pouvoir, il n'avait pas la férocité des hommes politiques qui étaient. Et du coup, je pense qu'il a... En tout cas, j'ai plaisir à imaginer qu'il a voulu se ressourcer auprès de vrais gens, et que, comme ces gens ne le reconnaissaient pas, au bout d'un moment, il a accepté qu'il n'était pas président de la République, et juste pour rester un tout petit peu plus longtemps avec eux.
Et est-ce qu'à ton avis, c'est le rêve de tout président de disparaître comme ça et d'oublier ses responsabilités en partant à la campagne?
ça serait rigolo que ce soit le rêve de tout président, je sais pas. Je pense que ça serait quelque chose de chouette pour les présidents qui prennent quelques vacances parfois.
Et donc, je le disais, ton film est dans la compétition Made in Braise. Il a été filmé en Bretagne, c'est ça ?
Tout à fait. Il a été filmé juste à côté de Paimpol, dans l'estuaire du Trieux, qui est un petit fleuve là-bas, parce qu'au début, on avait besoin d'un passage de locomotive et de train à vapeur devant une petite maison de garde-barrière, juste pour nous planter dans le décor et dans l'aspect historique. Et du coup, ils ont accepté. Il y a une petite anecdote qui est rigolote, c'est que la voie de chemin de fer est aussi empruntée par des TER, très modernes et tout ça. Et du coup, on avait droit qu'à un passage, donc avec les acteurs, au moment du passage, au moment où il fermait sa petite barrière, le garde-barrière savait qu'il n'avait droit qu'à une prise, et il l'a très bien fait. Les acteurs ont été formidables.
Et votre film donc se passe en 1920, le langage était différent il y a 100 ans. Au moment de l'écriture, comment ça se fait? Est-ce que vous avez des sortes de... Je sais pas, de registre, de dictionnaire, comment vous... C'est un peu à l'improvisation.
En termes de registre lexical, pour Paul Deschanel, c'était relativement facile parce qu'il y avait beaucoup de retranscriptions de ses discussions, donc même son phrasé quotidien a été retranscrit, donc c'était assez facile de s'en inspirer. Après, il y avait vraiment une différence sociale entre les deux qu'il fallait matérialiser, et du coup, après je me suis inspiré après de certains dialogues qui existaient dans les parlers ouvriers, et pour que la différence se fasse, et ça s'est fait assez naturellement avec des acteurs qui étaient chouettes, quoi.
Et est-ce que vous avez des nouveaux projets de films, peut-être encore historiques, je sais pas?
Figurez-vous que j'aimerais bien en faire un long métrage de cette histoire de Paul Deschanel, mais pas uniquement de sa chute du train, mais là de parler de la totalité de son septennat, le septennat le plus loupé de l'histoire. Je pense que ça peut être, j'espère que ça pourrait intéresser les gens.
Merci Jean-Marc Perfitte d'être venu présenter votre film, donc Le président et le garde-barrière. en compétition Made in Braise 1. Cette émission spéciale du Festival européen du film court de Brest est terminée. Ce soir, c'était notre dernière émission en direct du festival. Un grand merci à Mike Ponton, guitariste du groupe Dionysos et jury officiel du festival, à Mathieu Mégémon, réalisateur et compositeur du film Diversion, présenté dans la catégorie Surfroide, à venir voir au Grand Théâtre du Quart ce soir à 22h. Merci à Wissam Ojay, compositeur du film Saison Calme, également aux compétitions Made in Braise 1. Merci à Léopold Legrand, réalisateur de Mort au Code, diffusé ce soir à 21h au cinéma Les Studios dans la compétition Française 2. Enfin, nous remercions les deux réalisateurs et réalisatrices Pauline Hamelin et son film Show à découvrir demain à 18h au cinéma Les Studios pour la compétition Française 3 et à Jean-Marc Perfit pour votre film Le Président et le Garde-Barrière, présenté dans la compétition Made in Braise 1. Retrouvez toutes les émissions de Radio U spécial Festival Européen du film court de Brest en podcast sur notre site internet radio-u.org. Le festival du film court de Brest est à venir découvrir jusqu'à dimanche. Une centaine de films sont encore diffusés ce week-end au Quartz, à la médiathèque des Capucins et au cinéma Les Studios. Ne ratez pas la cérémonie des remises des prix demain à 20h30 au Grand Théâtre au Quartz. Retrouvez le format habituel de la quotidienne d'info locale, c'est vous qui le dites, dès lundi 18 novembre à 18h. Bon festival et bonne soirée à toutes et tous.
Merci beaucoup.
Radio U, en direct de la 34e édition du Festival européen du film court de Brest.